Alors, je suis très content et très fier de vous présenter Raphaël Enzensberger. Je le connais depuis moi un moment et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais essayer de te présenter rapidement et puis tu compléteras si tu as des choses à dire. Alors, premièrement, le plus important, tu es marié et papa de 4 enfants. 2 gars, 2 filles. Voilà, le chiffre parfait, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Tu as une formation d'ingénieur à la base, tu bossais chez Michelin, c'est ça ? Voilà, et puis petit à petit, le ministère t'a pris de plus en plus, et donc tu es allé jusqu'au doctorat en théologie. Voilà. Donc il a une tête bien faite, c'est à l'instant qu'il disait ça, une tête bien faite et bien remplie, donc je rejoins ça connaissant le personnage. Et Raphaël est évangéliste, il implante une église à Loche. Et puis, il intervient aussi à droite, à gauche, comme il proclame l'évangile, il fait de la formation à l'évangélisation dans des différents instituts, avec tout. Enfin bref, il est en lien un peu avec tout le monde. Et voilà, et puis bon.
C'est bon.
Ok, d'accord, allez, feu.
C'est parti. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est super de voir certains visages que je connais, d'autres que je vais apprendre à connaître. On a 55 minutes, autant dire qu'on va, accélérer. Je me suis déjà fait bouffer 10 minutes. J'aime bien ce qui est marqué toujours sur les pupitres. Merci de ne pas chanter près du micro, on enregistre. Bon. Je tâche de m'en souvenir. On va commencer tout de suite. Voilà, s'il y a une question à laquelle vous ne souhaiteriez ne jamais être confronté, laquelle serait-elle ? S'il y a une question à laquelle vous ne souhaiteriez ne jamais être confronté, laquelle serait-elle ? Le genre de question où quelqu'un vous approche en disant « Ah, t'es chrétien, ce qui paraît ? Ouais, ça tombe bien, j'ai une question pour toi. » Et le gars, il commence à dégainer et là, tu pries que Jésus revienne maintenant. Tout de suite, voilà. Ceci n'est pas une question rhétorique. Quelle serait cette question ? Je vous écoute, on en prend 5. Vous êtes en forme, on y va là. Je vous sens bien. C'est chaud.
Si Dieu existe, pourquoi il ne se révèle pas directement en venant maintenant ?
Ah. Devant moi, quoi. Hein.
Ouais.
Ok. 7, c'est biblique. Non. J'en fais une autre. Voilà, ça c'est une question qu'on pose pas. Hein. J'aime bien me balader dans les boutiques relais, surtout quand je prends le train. Ça me permet de lire ce que tout le monde lit. Et là, il y a un dernier qui est sorti, Franz Oliver Gisbert. Avec ça, tu peux que écrire un livre avec un nom pareil. Et le titre de son bouquin, il en a écrit une pelletée. Hein. Je ne connaissais pas cet auteur, mais il en a écrit vraiment au moins une quinzaine de livres. C'est un journaliste, Dieu, ma mère et moi. Voilà, donc tout dernier qui vient de sortir, tout chaud des presses. Extrait. Un jour que je sors du catéchisme, je vais voir ma mère qui avait une foi incommensurable. « Maman, dit-il, je n'ai plus l'âge de croire au Père Noël, le jour de la grande explication. Pendant les cours du curé, je me retiens pour ne pas éclater de rire. » Sa mère lui dit, « Je te le répète, tu n'es pas obligé d'accepter tout ça pour croire en Dieu. » Elle me regardera droit dans les yeux. « Tu crois toujours en Dieu, n'est-ce pas ? Oui, maman. Alors laisse dire. Il ne faut pas en vouloir à l'Église. Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. L'Église a essayé de le mettre dans un cadre où il n'entre pas. Dès qu'on essaye d'être précis et de les réduire à des mots, on devient risible et pathétique. Sur ce plan, il n'y a pas une religion pour racheter l'autre. Tu veux dire qu'elles sont toutes bêtes, maman ? Non, elles font ce qu'elles peuvent. Mais nous ne sommes pas à la hauteur, tu comprends ? Nous ne sommes que des humains et quand, comme moi, on a vécu une guerre, il y a au moins une chose dont on est sûr, certains d'entre nous sont pires que des animaux. Regarde ce qui est arrivé à Jésus quand il a essayé de nous élever. Il faut être chrétien, rien que pour le Christ, il le mérite. Il continue. J'étais déjà croyant. Ce jour-là, je suis devenu définitivement chrétien. C'est un gros mot, je le sais. J'entends déjà les gloussements des grosses poules du nihilisme contemporain, des guapes du poulailler, des petites frappes de la modernité. Elles ont décidé que tout valait mieux que la religion. Les idéologies fussent-elles mortifières. Le culte de l'argent roi ou de l'homme-dieu. Elles ne supportent pas la vue du croyant en train de prier à genoux parce qu'elles ne peuvent imaginer qu'il s'élève en s'abaissant. Il semble même que ce spectacle les effraie. Il faut leur pardonner. Elles sont comme des canards sans tête. Elles ont perdu leur âme, mais je crois trop à la force de la foi pour douter qu'un jour, dans le néant de leur monde, elles ne finissent par retrouver cette âme par terre, dans un coin, au milieu des rognures. Point. Dieu, ma mère et moi. Quand on commence à lire ce livre, on se dit « Ah, enfin !» Et après, ça se complique. Les gens m'ont entendu crier, glousser, hurler dans le train. C'est du n'importe quoi. Comme s'il fallait mettre une croix sur la Bible pour enfin s'en sortir. Aux deux tiers du livre, la seule chose qu'il arrive à dire, c'est que Dieu, c'est l'univers. Et qu'il est très heureux de rencontrer Dieu quand il entend un oiseau chanter. Et que te tenter de mettre des mots sur Dieu, c'est déjà le disqualifier. Mais est-ce le cas ? Si c'est le cas, mes amis, mes collègues, nous avons un problème ce soir. Puisque l'apologétique, c'est rendre raison de l'espérance qui est en nous. Pour rendre raison de quelque chose, il faut utiliser des mots. Les mots relient les choses entre elles, elles donnent sens à la réalité. Je ne suis pas d'accord avec cet auteur. Dieu se révèle, et c'est une bonne nouvelle. Et ce soir, vous allez pouvoir trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Il y a des réponses, il suffit juste de s'y frotter. Je voudrais prendre, en guise d'introduction, un passage dans l'épître aux Colossiens. Je vous l'ai mis au mur, comme ça, tous ceux qui n'ont pas amené leur Bible n'ont pas à souffrir de culpabilité. Tout a été pardonné à la croix. Amen. Je vais faire un appel tout de suite, comme ça c'est réglé. Non, on attendra demain. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, dit Paul. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà ce que j'appelle l'apologétique attitude. Dans ce passage-là, trois traits que nous donne l'apôtre Paul. Est-ce que vous pouvez les voir avec moi ? Premier trait de l'apologétique attitude, je vous écoute. Persévérer dans la prière, très bien. Deuxième trait, conduisez-vous avec sagesse. Troisième trait, sachez comment répondre. Voilà, donc un plan en trois parties, ça qu'on aime bien quand on est prédicateur. Persévérer dans la prière, conduisez-vous avec sagesse, sachez comment répondre. Ceci est le portrait que Dieu donne dans sa parole de l'apologète. Au travers de la plume de Paul, l'apologète développe ses trois traits, la persévérance dans la prière, la conduite dans la sagesse et une parole, le bon propos au bon moment. On va regarder ça ensemble, un après l'autre. Persévérer dans la prière. Étonnant de commencer une introduction sur l'apologétique par la prière. Un théologien disait « Je ne connais pas de sujet plus humiliant que de parler de ma vie de prière ». Je ne sais pas vous, mais si vous devez donner une note à votre vie de prière, entre 1 et 10, 10 étant le maximum, vous donnez combien ? On ne va pas le faire, on ne va pas le faire. À la croix, tout est pardonné. Amen. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de persévérer dans la prière, c'est compliqué. Ça fait partie de ces résolutions qu'on prend en début de chaque année, en disant cette année, c'est décidé, Brigitte, je vais prier plus. Arrivé à Pâques, nous sommes découragés, Brigitte avec, parce qu'on n'arrive pas à tenir ses résolutions. La raison pour laquelle souvent on se plante lorsqu'on parle de notre discipline de vie de prière, c'est parce qu'on confond deux choses. La première, c'est essayer encore plus, et la deuxième, c'est se former encore mieux. John Ortberg disait, il y a une différence fondamentale entre se former à faire quelque chose et essayer de faire quelque chose. La transformation spirituelle que nous souhaitons tous n'est pas une question d'essayer encore plus, mais de se former mieux. Vous voyez la différence entre les deux ? La vie de prière fait partie des disciplines spirituelles à laquelle nous sommes attachés, en particulier dans notre spiritualité piétiste orthodoxe. Nous sommes attachés à la prière, mais la prière, c'est dur. Il est étonnant que nous considérions dans nos églises que parce que quelqu'un s'est converti, il sait prier. C'est là beaucoup assumé. Est-ce que les disciples n'ont pas demandé à Jésus « Apprends-nous à prier ?» Dans quelles plusieurs mesures on devrait nous-mêmes apprendre aux autres à prier ? Lorsque nous avons démarré notre implantation d'église à Loche, il y a de cela un an et quelques mois, nous savions que nous étions dans une région où l'ennemi était présent. La Touraine, c'est un beau pays, il y a des châteaux, il y a du bon vin, il y a un savoir-vivre, mais il y a surtout beaucoup d'occultisme et beaucoup de franc-maçonnerie. J'ai rencontré un médium récemment qui me disait avoir des apparitions de Marie depuis l'âge de 17 ans, qui lui dit précisément qui va toquer à sa porte dans les 5 minutes qui vont venir, quelle est la maladie et quel est le traitement. 5 divorces plus tard, et rongé par un cancer en phase terminale, il a supplié à Marie de lui accorder du repos. Elle lui a dit, j'ai encore besoin de toi. De ma vie, je n'ai jamais vu un homme aussi abusé spirituellement par un démon. Émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et nous nous sommes dit qu'il était impératif, si nous voulions implanter dans un lieu comme celui-là, de prendre à cœur cette exhortation de Paul aux Colossiens et de commencer à baigner cette implantation d'église dans la prière. Alors nous avons appris et nous nous sommes formés à prier. Tous les matins de 7h à 8h, nous nous donnons rendez-vous dans le local de notre église qui est transformé en salon de quartier en semaine. 4 sofas, une table avec des cantiques. Et on commence par 2-3 chants qui nous mettent en forme. Dérouille la voix le matin à 7h alors qu'on est encore à jeun. Levez nos yeux vers le ciel, nous rappeler que Dieu est Dieu, que nous ne le sommes pas et que c'est bien ainsi. Nous rappeler que lui ne sommeille, ni ne veille, ni ne dort, et que pendant toute la nuit, il a préparé pour nous de bonnes actions afin que nous puissions y rentrer dedans. Et le matin, nous nous mettons à son écoute. Seigneur, quel est le menu pour aujourd'hui ? En communauté, nous nous retrouvons tous les matins et nous chantons. Puis après, nous faisons une lecture suivie au travers d'un petit livre dans l'Écriture. Notre pain quotidien, qui est à propos parce que nous nous réunissions dans une ancienne boulangerie et nous avons appelé notre église au pain de vie. Et nous faisons une lecture suivie. Et après avoir terminé la lecture, nous faisons une méditation personnelle dans le silence. Et ensuite, nous prions le texte. Nous prions le texte. On vient tout juste de terminer le sacrifice d'Isaac. Touchant. Et nous prions le texte. Et nous nous formons à la prière en priant le texte. Et le texte nourrit notre prière. Et notre prière nourrit notre âme. Ensuite, nous passons un temps à prier pour l'Église persécutée. Nous avons un petit carnet qui nous a été donné par Porte Ouverte. 45 jours de prière continue pour l'Église persécutée. On répète le cycle. Et puis ensuite, on échange les sujets de prière les uns des autres. On prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On prie pour ceux qui sont dans la communauté, qui ont besoin d'un boulot, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont peur de l'avenir. On prie que le Seigneur nous permette en tant qu'Église d'avoir un bon témoignage dans le quartier. Nous prions pour nos autorités. Et c'est surprenant d'entendre les cloches qui sonnent à 8 heures. C'est presque trop peu, une heure. Lorsque nous disons aux gens que nous prions en communauté dans l'Église 7 heures par semaine, les gens n'y croient pas. Moi non plus, j'y croyais pas. Tous les soirs, on se retrouve à nouveau à 18h, de 18h à 18h30, et on pose une seule question. Où était Dieu aujourd'hui? Et on apprend à être attentif à la présence de Dieu au quotidien, dans le mondain. Où était Dieu aujourd'hui? Et nous témoignons et nous rendons gloire de ce que Dieu répond aux prières du matin, dans la journée. Et cela nourrit notre foi. Et nous prions avec action de grâce, comme dit le texte, parce que nous nous souvenons qu'il est fidèle. Et lorsqu'on cherche sa face, il répond à nos prières. Nous prions avec action de grâce pour ce que Dieu a fait et que ce que Dieu va encore faire. Le vendredi soir, nous avons une petite tradition. Nous chantons « Compte les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez le refrain ? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Il ne faut pas chanter, près du micro, on enregistre. Donc je ne chanterai pas. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et donc on chante un couplet et le refrain, on fait une pause et on compte les bienfaits. Et donc autour de la table, chacun peut raconter un bienfait que Dieu lui a fait cette semaine. Et on compte, 1, 2, 3, on prend la strophe suivante, et puis 4, 5, 6... Et des fois, on va jusque 15, et des fois jusque 21, 30, et après, il faut rentrer. Mais tellement qu'on aime, en fait, se rappeler des bienfaits de Dieu, qu'on l'a prié et il nous a répondu, eh bien, ça nourrit notre foi, ça nourrit notre âme. C'est surprenant. 7 heures de prière communautaire, ça nourrit l'âme, et c'est possible. Mais ça nous a pris du temps, il a fallu qu'on apprenne à le faire. Parce qu'on n'avait pas de modèle. Enfin si, si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y a des laudes et des vêpres. Mais à la sauce évangélique, n'est-ce pas? Nous avons toute une tradition dans notre histoire de veiller à la présence de Dieu tous les jours. C'est peut-être ça aussi, persévérer dans la prière. Se souvenir que Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas, et que l'Église doit refléter l'unité dans la diversité qui se trouve dans la Trinité. Afin que le monde voit que nous sommes ses disciples. Et ça commence par développer notre vie de prière. Persévérer dans la prière. Puis Paul continue, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Ian Bound disait, si la prière n'aboutit pas à une pensée juste et une vie droite, tout cela n'est alors qu'une farce. Et je trouve ça intéressant. Le témoignage de ceux qui fréquentent notre communauté et qui disent sur la chaîne de montage de mon usine, la présence de Dieu est avec moi au moins jusqu'à la pause du déjeuner. Et les chants du matin restent avec moi tout le temps. Il y en a même une qui a suscité l'interrogation de ses collègues. Divorcée, mère de 5 enfants, une de ces femmes qui, lorsqu'on a inauguré notre église, est venue me voir très agitée et m'a dit « Mais vous étiez où ?» Elle dit « Moi, aujourd'hui, c'est ça ? Ou hier ? Quand ?» Mon agenda. « Non, c'est pas ça. Vous étiez où ? Ça fait depuis 3 ans que je cherche une église évangélique. Vous étiez où ? Pourquoi vous avez mis autant de temps à venir ?» Je dis « Je suis désolé, hein, on fait de son mieux, hein ?» On essaie d'implanter 4200 églises, hein ? Suscite des vocations. Donc, je vais aller à Grenoble, voilà. Alors, dire que s'il y a des vocations missionnaires, allez-y, lâchez-les. Il y a du taf. Voilà. Il y a des régions en France, il faut faire 2 heures de voiture pour trouver une église. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, elle a trouvé une église et elle chemine. Et ses collègues, en la voyant, se disaient, toi, t'es amoureuse. Elle dit, pourquoi tu dis que je suis amoureuse? Bah, t'es tout le temps en train de rigoler, t'as tout le temps la banane et tu chantes. Toi, t'es amoureuse. T'as trouvé un mec. Elles font, ouais, c'est vrai, je suis amoureuse. Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Non, non, tu déconnes, là, il s'appelle comment? Ah, t'es amoureux de Dieu, toi. Et ça change la vie. Essaye pour voir. Si la prière n'aboutit pas à une pensée juste et une vie droite, tout cela n'est alors qu'une farce. Est-ce que nos temps de prière nous transforment, mes amis? Est-ce que ça nous transforme? Conduisez-vous avec sagesse. Ou le passage dans l'épître de Pierre, sanctifiez Christ dans vos cœurs. La sanctification. La sanctification, la vie de sainteté, la condition sine qua non d'une apologétique qui soit entendue et reçue. Avant de devenir maître, il faut être témoin, n'est-ce pas? La vie de sanctification. Dans le corpus du Nouveau Testament, 2 mots qui nous aide à prendre la mesure de ce que c'est une conduite sage, une vie sanctifiée en Christ. Proskuneo, l'idée de se prosterner, d'être totalement soumis à la volonté de Dieu. Latruo, l'idée de se mettre à son service et d'être totalement engagé pour lui. Lorsque vous avez quelqu'un qui est totalement soumis à la volonté de Dieu et totalement engagé dans son œuvre, vous avez là une vie qui est sanctifiée et une conduite qui est sage. Est-ce que toute votre vie est soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes totalement engagé dans son œuvre? Ou est-ce que vous demandez à Dieu de rentrer dans vos projets? Avant de vouloir ouvrir la bouche pour donner raison de l'espérance, Paul et Pierre nous disent « Regarde à ta vie ». C'est le premier évangile qui sera lu. Qu'est-ce que les gens lisent lorsqu'ils lisent ma vie? Est-ce que c'est un évangile apocryphe? Ou est-ce que c'est un vrai évangile? Paul nous dit qu'il faut saisir l'occasion. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, les pecs. Pas encore chrétiens. Parce que nous sommes dans le temps des rachetés. Nous sommes en sortie de la modernité, dans ce que certains appelleraient l'ultra-modernité. La caractéristique de notre temps, c'est que nous nous éloignons de plus en plus d'une société et d'une culture qui est basée sur les valeurs de l'Église, de l'Évangile. Et la distance qui sépare notre culture environnante d'une culture qui épouse les valeurs de l'Évangile se fait de plus en plus grande. Nous sommes en accélération, nous sommes en sortie de la chrétienté. C'est ça qui intrigue les médias sur la croissance des évangéliques. Ils ne comprennent pas que dans une société qui est de plus en plus sécularisée, les évangéliques continuent à grandir et à grossir leur rang. Ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est la quadrature du cercle. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas normal. On est en sortie de chrétienté. On devrait assister à un effondrement du christianisme et on assiste à un renouveau du christianisme. Là où on ne l'attendait pas, les frontières bougent. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, au temps de la chrétienté, lorsque le christianisme vivait sa version politisée, nous étions proches d'une culture qui avait ses fondements à peu près sur les textes de la Bible. Mais en fait, il est intéressant de noter que Avant cela, pendant deux siècles, les apôtres, puis ensuite les pères de l'Église et les disciples qui ont suivi, ont annoncé l'Évangile dans le même contexte que nous vivons aujourd'hui. Un contexte qui était pré-chrétien, qui était relativiste, et où il y avait une compétition folle entre les différents courants religieux. Alors nous pouvons prendre courage, parce que si l'Évangile a marché là, eh bien il marchera aussi ici, n'est-ce pas ? Nous le croyons ? Il nous faut comprendre le temps, comme les fils d'Issacar. Il nous faut comprendre le temps dans lequel nous vivons. Il nous faut nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Il faut que notre conduite soit irréprochable. En tant qu'individu, au travail, à l'école, mais aussi en tant que communauté dans nos quartiers et dans nos villes. Mardi, une journaliste du Monde est venue passer une journée avec nous. Elle a démarré la journée avec nous à 7 heures, au pain de vie. Elle était là avec tous les autres. Alors que la ville était recouverte de neige, nous étions là et nous chantions le Dieu que nous aimons. Et nous l'avons prié comme chaque matin en disant « Transforme-nous ». Elle a passé la journée avec nous, elle nous a canardé de questions. 25 ans, tout juste sortie de Sciences Po, brillante. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité ? Qu'est-ce que vous pensez de l'homoparentalité ? Qu'est-ce que vous répondez quand vous dites que vous êtes conquérant ? Elle a interviewé deux de mes jeunes, Raphaël et Florian, 27 ans et 23 ans, qui s'apprêtent à implanter une église dans un an. À un moment donné, elle avait un coup de téléphone à passer et je me suis dit qu'elle pouvait utiliser nos bureaux. Elle a dit non, je préfère me mettre dans un café à l'écart. Je me suis dit bizarre. C'est normal, c'est une journaliste, elle doit travailler sur deux ou trois dossiers à la fois. En fait, elle venait d'appeler le maire. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de l'église évangélique au bout de la rue Picquoy ?» C'est une vraie question. Est-ce que je me suis conduit en tant que pasteur de notre communauté avec sagesse envers ceux du dehors ? Elle a interviewé des gens dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de l'église évangélique qui est au bout de la rue Picquoy ? Question que les pasteurs aiment. Avec crainte et tremblement. Eh bien, merci Seigneur. Il est bon. Le témoignage est bon. Gloire à Dieu. Certains sont amusés, d'autres sont indifférents. Mais le maire nous a donné un bon témoignage. Peut-être parce que le Seigneur a permis qu'il y a 15 jours, je puisse emmener sa gouvernante de 95 ans au Seigneur. Elle qui était athée et qui était le poison de la maison de retraite Pugibot. Personne ne voulait aller avec moi faire la visite pastorale, t'imagines ? Tous ceux dans mon équipe ont dit « Non, on est occupé, occupé. » Ah ben, je peux vous dire, c'était beau d'emmener quelqu'un de 95 ans qui toute sa vie s'est dit athée. Et qui, à la veille de passer de l'autre côté, se dit « Je ne sais pas si Dieu m'aime. J'ai peur qu'il ne m'aime pas. » Et de lui parler de cette bonne nouvelle de l'Évangile, en disant « Vous savez, la raison pour laquelle Dieu vous aime, c'est parce qu'il aime son Fils, et son Fils est mort pour vous. » Alors si vous le saisissez, le salut qu'il vous offre, alors il vous attend. Merci Seigneur, qu'elle répétait. Merci Seigneur, en quittant la chambre de l'hôpital. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être que je la retrouverai là-haut, je ne sais pas. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Qu'est-ce que les gens disent de ma vie ? Qu'est-ce que les gens disent de notre Église ? Persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse. Dernière injonction, dernier trait, sachez comment répondre. Sachez comment répondre. La vinaigrette de Jésus, j'appelle ça. Le bon propos au bon moment. Dans Luc, on lit « Tous rendaient témoignage de lui, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, littéralement qui tombaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» À chaque fois que Jésus ouvrait sa bouche, des paroles de grâce tombaient. Le bon propos au bon moment. Savoir comment répondre aux objections, aux questions que les gens ont sur Dieu, c'est à la fois une discipline et un art. Une discipline parce qu'il faut se former à répondre, et c'est pour cela que vous êtes venu ce soir. Vous êtes venu acquérir des outils, et vous les aurez dans les ateliers, pour comprendre la question et la question qui est derrière la question. Mais l'apologétique, c'est aussi et surtout un art. Celui de la direction spirituelle, de pouvoir aider quelqu'un à faire de la place pour qu'il puisse entendre Dieu, de proposer à cette personne de venir cheminer avec vous en tant qu'église, en tant que communauté de vie, de lui donner tout l'espace pour qu'elle puisse poser ses questions et recevoir ses questions. Oh, c'est quand même troublant que des fois on est impatient avec les pecs, les pas encore chrétiens. On se dit que franchement, il nous donne du fil à retordre. Mais nous, mes amis, combien de temps ça nous a pris pour venir au Seigneur ? Est-ce qu'on n'est pas reconnaissant qu'il nous laisse de la place pour encore aujourd'hui poser nos questions ? Est-ce que nous sommes une église qui accueille les questions des gens ? Ou est-ce que la question n'étant même pas terminée, on commence déjà à y répondre pour souvent s'y retrouver à côté de la plaque ? Vous connaissez l'adage ? Deux oreilles, une bouche. T'écoutes deux fois plus que ce que tu parles. Ou j'ai du mal à écouter. Où est Dieu dans la misère ? Bon, facile. Ok, t'es prêt ? Vas-y. T'en veux encore ? Parce que j'ai deux ou trois livres là aussi, je peux t'en donner, là, tu verras. Est-ce que j'écoute la personne ? Est-ce que j'écoute sa souffrance ? Derrière chaque question, il y a une vie. Derrière chaque vie, il y a une histoire. Il faut prendre le temps. Il faut créer cet espace dans lequel la personne se dise « Ici, ici, je peux parler. Ici, on m'écoute. Ici, on ne me traite pas comme un projet, comme une cible, comme un chiffre. » Je suis reconnaissant d'avoir des gars comme Jérôme, comme Bertrand, comme tant d'autres qui fréquentent notre communauté et qui ne croient pas encore en Dieu. Mais ils se sentent assez bien pour venir même à nos réunions de prière. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous venez à nos réunions de prière, vous qui ne croyez pas en Dieu ? Parce qu'on sent que Dieu est là. Et on veut être là où Dieu est. De leur donner cet espace. Prendre le temps de découvrir. Parce que nous ne voulons pas qu'il s'accroche à nos mots, nous voulons qu'il s'accroche à lui qui est l'auteur des mots. C'est pour ça que Paul dit « Je sais en qui je crois et non pas en quoi je crois ». Nous ne croyons pas en une simple philosophie ou une simple doctrine. Nous sommes attachés à une personne. Et pour tomber amoureux d'une personne, il faut du temps. Et l'Église est l'herméneutique de l'Évangile. C'est cet endroit que Dieu, dans sa souveraineté, a donné au PEC pour qu'il puisse goûter non seulement de cette révélation de Dieu dans la parole, mais aussi dans la communauté. Et de se dire, mais ce Dieu qui règne parmi vous, que je vois s'incarner dans vos relations d'amour les uns avec les autres, est le même Dieu qui est prêché du haut de la chair de cette parole. Je le veux, j'en veux plus. Et de voir des gens se tourner vers lui. Alléluia, Seigneur. L'année dernière, on a pu baptiser 10 personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Mes amis, l'évangile marche. Alléluia. Vous le croyez encore ? Sachez comment répondre. Vous connaissez l'échelle d'Engel. C'est un gars, il est en des échelles, il s'appelle Engel. Il y a 10 barreaux. Pour lui, il parle de l'évangélisation comme un processus où les gens prennent du temps pour aller et descendre l'échelle. De la conscience du surnaturel, en fait une conception agnostique, a aucune connaissance du christianisme, une connaissance initiale, s'intéresse au christianisme, connaissance des bases de l'évangile, il comprend les implications. Notez que, déjà à moins 5, il comprend les implications. À moins 5, déjà, la personne sait que c'est plus que des faits, c'est une volonté qu'il doit fléchir. C'est plus qu'une allégeance à une doctrine, c'est une personne qui veut être son maître. Lorsque nous sommes dans cette conversation apologétique et que la personne descend de son échelle, très vite, on passe du factuel au volitionnel, on parle des faits à la volonté. Lorsque les faits ont été balayés, le plus dur reste encore à faire. Il faut fléchir le genou devant celui qui est le maître. C'est là qu'on est content d'avoir une communauté qui persévère dans la prière. Parce que pour fléchir une volonté, il en faut de la prière. Prise de conscience du besoin, défi et décision d'agir, repentance et foi. Alors on laboure, on sème et on moissonne. Et surtout, on moissonne. Je remarque une chose, c'est qu'en Occident, nous avons une culture de la semence. Nous semons la parole, nous donnons la littérature, mais nous avons peur de demander aux gens de prendre position. Il nous faut peut-être redécouvrir une culture de la moisson. Donner l'information, mais aussi confronter les gens avec douceur et respect, en disant « Et toi, mon ami, tu en es où ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être réconcilié avec Dieu ?» C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu chercher. Alors dans notre apologétique, oui, on présente la raison de l'espérance, mais aussi on invite gentiment les gens à se saisir de cette espérance. Voilà l'injonction. Sachez comment répondre. On a... Combien de temps ? Ouais. Donc je t'en redonne 5. On va aller jusque 18h. On a 15 minutes. Alors, un petit exercice. On va reprendre les questions que vous avez posées là. OK ? Et je vais vous donner un petit truc pour faciliter ce dernier point que soulève Paul. Sachez comment répondre. Comment est-ce qu'on répond aux questions que les gens ont ? D'accord ? Alors voilà, vous avez 7 questions qui sont là. Vous allez vous mettre par petits groupes. Alors, on ne va pas tout déménager, d'accord ? Donc, vous retournez simplement dans les bandes. Donc, 1 et 2, vous êtes ensemble, 3 et 4, etc. Et puis, vous divisez les bandes en 2. Ça va ? Alles klar ? Bon. On vous redonnera les instructions en savoyard plus tard. Voilà. Alors, vous formez, s'il vous plaît, des groupes maintenant. Donc, vous vous retournez, voilà. Et vous choisissez une des 7 questions. Voilà, ça devrait prendre 5 secondes. 1... 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez choisi votre question. C'est bon ? Donc, notez votre question, s'il vous plaît. Notez votre question. Voilà, notez votre question. Vous avez noté votre question ? C'est bon ? Alors, lorsque quelqu'un me pose une question, avant d'ouvrir ma grande bouche, je me demande pourquoi est-ce qu'a priori cette personne me pose cette question. Avant d'ouvrir ma grande bouche et de répondre, je me demande pourquoi est-ce que cette personne me pose cette question. Je me le demande dans mon fort intérieur, ça me donne le temps de réfléchir un petit peu. Donc, vous allez, dans votre groupe, réfléchir à cette question. Voilà. Dieu existe-t-il, par exemple ? Et à votre avis, pourquoi est-ce que quelqu'un poserait cette question ? Attention, piège. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. Donc, dans votre groupe, essayez de voir les différents profils que vous pourriez avoir devant vous par rapport à cette question. Top, c'est parti.
C'est bon, vous pouvez...
Voilà, ça va ? Vous avez trouvé combien de profils ? Alors pour la 1, qui c'est qui a fait la 1 ? Ouais, alors vous avez trouvé quoi comme profil ? Allez-y, je vous écoute. Très fort, très
mal.
Quatre, oui. D'accord.
La personne
peut être
en recherche.
Oui. D'accord. Donc, vous avez vu, là, donc quatre possibilités pour la question numéro 1. Dieu existe-t-il ? Est-ce qu'il est en recherche ? Est-ce qu'il veut nous piéger ? Ouais. C'est pas facile. Mais c'est important de se poser la question, parce que sinon, on assume trop vite que les personnes sont dans cette catégorie. Vous voyez ? Et il faut bien se donner le temps. Il faut... voilà. Donc, pour les autres questions, vous avez trouvé aussi... question 2, vous avez trouvé combien de profils ? Ok, question 3. Elle est assez immédiate, celle-là. La 4, vous avez trouvé combien de profils ? La 3, vous avez trouvé 4 ? Ouh, bien, d'accord. D'accord. Donc tout ça pour dire que quand quelqu'un vous pose une question, vous ne savez pas forcément d'où il vient. Alors parce que vous ne savez pas d'où il vient, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez poser une question, c'est formidable. Voilà. Quelle question est-ce que je pourrais poser en retour pour mieux lui répondre ? D'accord ? Vous allez donc questionner la question. 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 Ça va ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Questionner la question. Voilà. Alors, petit truc. Dans chaque question, il y a un mot, et ce mot est généralement le mot qui déclenche tout le problème. Ce mot-là est généralement porteur d'image. Par exemple, si je vous dis le mot ciel, à quoi vous pensez ?
Bleu.
Bleu, ouais. Paradis. Ok, avion, ouais. Si je vous dis le mot église, vous pensez à quoi ? Clocher, ouais. Communauté. Cathédrale. D'accord. Donc vous avez certaines images en tête. D'accord ? Si vous posez cette même question à des gens dans la rue, et vous dites ciel, qu'est-ce qu'ils vous répondront ? Ouais. Ouais, la météo par exemple. Ouais. Église, ils vous diront ? Hypocrite, ouais, d'accord. Secte, oui. Vous voyez, donc la difficulté, c'est que si vous allez voir quelqu'un et puis vous lui dites, tu sais, en fait, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais le ciel, en fait, c'est ce qu'on vit en église, mais fois 10, quoi. Et l'autre, il n'est pas convaincu, tu vois. puis commence à partir en courant, et puis te dit « Ah ouais, c'est la persécution des saints. Ah, » Pierre, il en avait parlé. Non, c'est un problème de communication. Vous ne parlez pas de la même chose. Vous utilisez les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes images. Attention, ce n'est pas parce que vous parlez tous français que vous utilisez les mêmes images. Où est l'image dans la première ? Facile. Dieu. Ouais. Alors, vous êtes intelligent, vous vous mettez en petit groupe et vous cherchez l'image. Et une fois que vous avez trouvé l'image, vous posez une question qui s'articule autour de l'image. Ce soir, vous allez avoir des ampoules dans la cervelle. On y va. Vous restez sur votre question, hein. Ça va, vous avez trouvé les questions ? Allez, on va essayer. Pourquoi croire la Bible, numéro 5 ? Qui c'est qui a fait celle-là ? La numéro 5, ouais, ok, alors au milieu. Alors, quelle est l'image ? Eh oui, la Bible. Alors, ok, pose une question qui tourne autour de ce mot-là. C'est quoi la Bible pour toi ? D'accord ? Donc, pourquoi croire la Bible ? C'est quoi la Bible pour toi ? Quelqu'un d'autre ? Alors attends, toujours sur la Bible, excuse-moi, Philippe. Ah, c'est les évangélistes, ils ont la niaque là. Ils sont... toujours sur le 5, une autre question.
Est-ce que tu en as une chez toi ?
Ouais, excellent.
Réponse binaire.
Alors, réponse binaire, nous dit Jean-Luc. Qu'est-ce que toi tu penses ?
C'est pas une question.
Alors, vas-y, dis. Dis. Dis une question.
J'ai lu la Bible, qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben voilà ! C'est pas bon, mais on reconnaît la sagesse, hein. T'as déjà lu la Bible ?
D'accord. Mais qu'est-ce que t'en penses ?
T'as déjà lu la Bible ? Bon. Mais ça, je trouve ça intéressant, parce que les gens, ils disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu veux croire à la Bible ?» Tu dis « T'as déjà lu ?» Non. « Hey, tu veux la lire ?» Maintenant, là ? Tout de suite, hein. Non, mais ça t'intéresse ? Ben chez nous, on saute sur les occasions comme ça, c'est en veux-tu, en voilà. Hein. On fait les 7 signes de Jean dans notre église. Ça marche, c'est incroyable. Les gens, ils se convertissent entre le miracle numéro 3 et le numéro 7. C'est vraiment, c'est super de la bombe, quoi. Le plus tôt vous mettez les gens dans l'écriture, le plus tôt ils tombent amoureux de celui qui en est l'auteur. Ça, je peux vous garantir. Hein. Alors, vous voulez un conseil ? Le plus tôt possible, mettez-les dans une étude biblique. Voilà. C'est marrant, il y a déjà des fois, il y a une fois un collègue qui vient me voir en me disant « Ouais, il y a une dame à l'église, elle pose beaucoup de questions, elle a plein de questions, ouais, j'ai dit, vous faites quoi pour elle ?» Bah, on essaie de répondre. Je fais « Ouais, ouais, mais c'est qui ?» Enfin, il y a quelqu'un, au moins il y a quelqu'un qui lit la Bible avec elle. « Ah non, tiens, on n'a pas pensé ça. » Je dis « Hey, mon ami, c'est par là qu'il faut commencer, quoi. Il faut qu'elle tombe amoureuse de l'auteur. » Il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse de toi, tu vois. Enfin, t'es beau, quoi, mais je veux dire... Pourquoi toutes ces religions ? Ah, numéro 4. Alors, c'est quoi le mot ? Religion, ouais. Alors, quelle serait une question qu'on pourrait poser ?
Qu'est-ce qu'une religion pour toi ?
Qu'est-ce qu'une religion pour toi, ouais ?
Qu'est-ce que tu mets sur le mot religion ?
Ouais. Qu'est-ce que tu connais comme religion? Oui. Est-ce que tu as une religion? Oui, c'est pas mal ça. Est-ce que tu as une religion? Oui. Est-ce que tu as une religion? Vous voyez comment est-ce qu'on peut aller assez vite dans la conversation? C'est pas mal. Super. Vous avez compris le truc? Le 6. Ah, ça est sympa la 6. Le mot, c'est lequel? L'image? Ouais, se révéler, ouais. Alors du coup, de la question, ça serait? Qu'est-ce que tu entends par se révéler? Pourquoi est-ce que tu veux le voir? Ah, vas-y. Excellent, ouais. Qu'est-ce que tu ferais s'il venait là directement? Ouais. Ok, d'accord. Ok, c'est pas mal. Voyez l'idée? Simplement, c'est de rebondir sur l'image. C'est-à-dire qu'on comprend que l'image qu'il a de Dieu, elle n'est pas la bonne. 99% des objections que les gens ont sur Dieu sont des objections de l'ordre moral. Les gens pensent que Dieu a un problème. Ils pensent qu'ils ont... Parce que si Dieu était bon, leur vie ne serait pas comme ça. Je veux dire... Donc, qui veut croire dans un Dieu qui a des problèmes? Moi, j'ai déjà des problèmes. Alors, tu veux me demander de croire dans quelqu'un qui... Ça ne va pas. Je veux dire, la vie est déjà compliquée. Voilà. En plus, il faut que tu ajoutes... Non. Donc, Dieu a un problème. Et en travaillant l'image, on essaie de leur faire comprendre que c'est eux qui ont un problème. Ou que le monde a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, lorsqu'on parle avec les gens sur ces choses-là, et qu'on se pose la question où est-ce que je vais dans cette conversation, assez rapidement, on se rend compte qu'il va falloir du temps pour aller jusqu'au bout. Donc, par exemple, parle-moi de ta religion. Le gars, il ouvre son cœur. Et puis là, vous êtes, ouais, c'est vachement intéressant, mais là, tu vois, on avait prévu de donner des flyers sur le parking de Mammouth. Là, on se les gèle, là, si tu veux, là, et ce soir, il y a un groupe de jeunes, donc on va arrêter la conversation ici. Hein, c'était sympa. Peut-être à une prochaine tournée de flyers. Faut prendre du temps. Il faut prendre du temps parce qu'en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a une collision d'autorité. Je m'explique. Ma grand-mère pensait que si c'est sur le journal, c'est vrai. Voilà. Si c'est sur le journal, c'est vrai. Donc, des fois, je lui disais, « Ah ben tiens, t'as entendu parler qu'en Belgique, ils ont des problèmes de gouvernement. » Non, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Non, c'était pas sur le journal. Tes grands-mamans, les dernières nouvelles d'Alsace, c'est pour l'Alsace. Hein ? Après, en dehors de l'Alsace, il y a un monde, si tu veux. Ouais, y a là... Donc, il n'y a pas tout dans les DNA. Hein ? Tant que c'est pas sur le journal, c'est pas vrai. Là, tu peux discuter comme tu veux avec elle, hein. Elle dérive sa connaissance d'une autorité. D'accord ? D'où il sort, lui, son image de Dieu ? Vous savez de où ? De sa mère ! C'est sa mère, son autorité. Sa mère a été fan de Descartes et de Kant. Alors quand Kant vous dit que ce n'est pas possible de connaître Dieu, déjà, ça explique pourquoi est-ce qu'il s'est tourné vers Spinoza. Mais c'est sa mère, son autorité. Il écoute sa mère. Il est disciple de sa mère. Alors, tu rencontres un gars comme Franz-Olivier Gisbert et tu lui expliques gentiment que sa mère a un problème. C'est chaud. Émotionnellement, c'est chaud. C'est chaud émotionnellement. De se dire, attends, voir, est-ce que tu veux dire que ma mère qui m'a aimé toute sa vie, qui m'a tout donné, elle m'a dit des baratins, elle qui était prof de philo, que j'ai même dû supporter deux fois en terminale parce que j'ai redoublé mon bac. C'est elle que tu dis qu'elle a un problème, tu vois. Et quand on présente l'évangile, il y a collision, il y a clash entre autorités. Il faut que je change cette autorité contre une autorité qui serait celle de Jésus-Christ. Mais est-ce que je le connais même? Vous voyez? Il faut que les gens fassent la transition d'une autorité à l'autre. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui est de la vérité m'écoute. Parce que la vérité est toujours dérivée d'une autorité. Celui qui est de la vérité m'écoute. Jacques Ellul disait que la réalité, c'est ce qu'on voit au travers des yeux, mais la vérité, c'est ce qui nous est donné d'entendre. C'est intéressant que dans la Bible, jamais il dit « regarde Dieu », mais toujours « Shema Israël, écoute Dieu ». La philosophie, la théorie, c'est de voir le monde au travers de nos yeux. Mais on voit les choses et on ne fait pas sens. Et Dieu est là, il se révèle à notre oreille pour que la réalité fasse sens. Et donc, la conversion passe par un changement d'allégeance, d'une autorité à une autre. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut du temps ? Il faut vraiment du temps pour abandonner Spinoza, pour abandonner sa mère, pour abandonner sa prof de philo, pour aller s'attacher à quelqu'un qu'on commence tout juste à connaître, qui s'appelle le bon berger, et qui nous attire à lui de manière irrésistible, en disant « Viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos ». Mais ce qui est beau, mes amis, c'est que lorsqu'ils entendent la voix du berger, alors comme Pierre, ils sortent de la barque, là où ce n'est pas raisonnable, et ils traversent les tempêtes de leur vie en ayant les yeux fixés sur leur berger. Et ça, il faut du temps. Voilà. L'apologétique attitude, trois traits, persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse, sachez comment répondre. Vous aurez remarqué que Paul utilise un « vous », ce n'est pas le vous de majesté. C'est une exhortation communautaire. Est-ce que nous avons une apologétique communautaire ? Est-ce que notre Église est une Église qui persévère dans la prière ? Est-ce que notre Église est une Église qui se conduit avec sagesse, envers ceux de dehors ? Et est-ce que notre Église est une Église qui sait comment répondre à chacun ? Du grain à moudre, les amis, du grain à moudre. On prie ? Seigneur, on entend les cloches. Tu peux naître de nouveau, comme dit le cantique. Les cloches qui, un jour, sonneront le temps du grand banquet. Mais ton invitation est encore à toutes celles et ceux qui ne savent pas qu'il y a un Jésus qui sauve et qui leur prépare une place à table. Que nous soyons des communautés de prière, que nous soyons des communautés totalement soumises et totalement engagées dans ton œuvre, que nous soyons des communautés qui expliquent, qui incarnent et qui démontrent l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore. Montre-nous le chemin, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.